VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 13h à Bujumbura. Trois membres des Zimbure Nakure, la Ligue de la jeunesse du parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, ont été tués et deux blessés par l'explosion d'une grenade mercredi soir dans un quartier du sud de Bujumbura. Ces Zimbure Nakure, un mouvement que l'ONU qualifie de milice, étaient réunis dans une maison de Gikoto dans le quartier de Musaga, lorsque l'on a entendu une explosion vers 18h GMT, 20h local, a expliqué un témoin. Une source policière contactée par l'AFP a cependant expliqué qu'il était difficile de déterminer les circonstances exactes de l'incident et de savoir s'il s'agissait d'une attaque extérieure ou d'un accident. Et Reporters sans frontières attire l'attention sur un pluralisme de façade du paysage médiatique au Burundi. Deux ans après la destruction des médias indépendants, RSF fait le bilan de la situation. Eric Manirakiza a joint à Paris le responsable du bureau Afrique au sein de RSF, Cléa Kahn-Schreiber.
Ça fait deux ans que les principales radios qui émettaient depuis Bujumbura, mais dans tout le pays, ont été fermées de force. Et depuis, le Burundi n'a pas retrouvé le même niveau de liberté d'information, d'accès à des opinions contradictoires, de débats, etc., qui était permis, qui était rendu possible par la multiplicité de ces radios. De toutes ces radios considérées comme indépendantes qui ont été fermées, seulement une a réouvert avec une équipe renouvelée, notamment au niveau de la direction. C'est la radio Isanganiro et elle a dû s'engager à suivre une certaine ligne éditoriale et aujourd'hui il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'elle n'est pas aussi libre qu'elle l'était par le passé. Donc clairement la liberté de ton mais pas dans la liberté de couvrir des informations et d'intérêt public n'existe plus en l'état au Burundi.
Est-ce que vous pensez que le contexte le permet vraiment pour revenir à l'environnement médiatique qu'on connaissait il y a deux ans?
La situation peut revenir à une situation apaisée si les pouvoirs en place donnent des garanties démocratiques. Or là, on a l'impression qu'on va quand même dans le sens inverse puisque maintenant on parle même d'un quatrième mandat. Le gouvernement s'est entêté dans son opposition à tout dialogue démocratique et donc maintenant la situation est vraiment très compliquée.
Ces médias ont essayé de travailler tant bien que mal à partir de l'exil, mais elles fonctionnent dans une extrême précarité.
Enfin, oui, après c'est des médias qui sont importants de soutenir. C'est vrai qu'ils souffrent aussi, en plus de la précarité dont vous avez parlé, du fait qu'ils sont éloignés des sources d'informations premières et qu'en plus les journalistes qui veulent leur servir de relais sur le terrain depuis le Burundi sont régulièrement menacés et donc de moins en moins osent participer à ces médias. Donc c'est des médias qui sont évidemment dans une situation très fragile.
Vous parlez justement de l'accès aux sources au Burundi, c'est très compliqué.
Oui, c'est extrêmement compliqué. Beaucoup d'instances du gouvernement sont dans une grande défiance vis-à-vis des médias. Il y a aussi un système de contrôle qui s'est accentué, avec notamment le fait de devoir se déclarer dans les localités quand on veut couvrir un sujet. Alors, c'est pas une paranoïa, parce que ça a l'air assez justifié, mais disons vraiment une omerta qui s'est installée au Burundi, où les gens n'osent pas parler. Il y a vraiment un règne de la crainte, parce que je pense le gouvernement aussi est passé dans un mode assez arbitraire de répression. Sans qu'il y ait vraiment de compte à rendre. Quand la police ou le SNR vous arrête, vous n'êtes pas du tout garanti de pouvoir en sortir et le risque est clair de disparaître, qui est arrivé notamment au journaliste Jean Biguerimana.
Cléa Kahn-Schreiber de RSF à Paris. Au Burkina Faso, les autorités mettent de l'ordre dans les services payés à la police par des organisations privées. Une enquête du ministère de la Sécurité intérieure a mis en relief des fautes de gestion imputées à la hiérarchie policière. Le ministre burkinabé de l'Intérieur, Simon Compaoré, évoque maintenant un nouveau départ.
Tout cela est parti d'un texte de 1979 qui, au jour d'aujourd'hui, est complètement dépassé et qui a laissé beaucoup de failles. Et ces failles ont permis justement à ce qu'il y ait ces avatars. Nous avons voulu savoir la vérité. Les mesures ont été déjà prises. C'est que jusqu'à ce que le gouvernement opine sur un nouveau décret, il n'y aura plus de fonctionnement comme cela au niveau des services payés. Si on a un contrat avec une banque qui doit payer régulièrement 1 million par mois, ce million-là rentrera dans la caisse de la structure et la structure va en faire une utilisation qui profite à l'ensemble des policiers, mais pas à des individus, fussent-ils responsables.
Le ministre burkinabé de l'Intérieur, une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais sera prochainement déployée dans le centre du Mali où se sont multipliées depuis 2015 attaques et violences intercommunautaires, a annoncé mercredi soir le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui effectue sa première visite dans le pays depuis sa prise de fonction. La MINUSMA est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie, avec plus de 70 casques bleus tués en opération.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Iran a condamné aujourd'hui les nouvelles sanctions américaines liées à son programme de missiles balistiques en affirmant qu'elles affectaient les résultats positifs de l'accord nucléaire. Les États-Unis ont annoncé hier leur décision de poursuivre la politique de levée de sanctions contre l'Iran dans le cadre de cet accord historique. Mais dans le même temps, le Trésor américain a rendu public de nouvelles sanctions ciblées contre des responsables iraniens liés au programme de missiles balistiques. La décision américaine est intervenue 2 jours avant l'élection présidentielle vendredi en Iran, un scrutin déterminant pour l'avenir du président modéré Hassan Rouhani et à sa rupture, à sa politique d'ouverture au monde. Quelles seront les grandes orientations de la politique africaine en France après la publication du premier gouvernement Macron? Les observateurs notent l'absence d'un ministère qui centralise les relations du continent avec l'Hexagone. Écoutez l'avis d'un spécialiste, Mathieu Collet. Il est le président de Euro Agency, une agence de communication politique et de diplomatie publique.
Emmanuel Macron a dit pendant sa campagne « J'agirai en Afrique en toute transparence, loin des réseaux de connivence ». Il sous-entendait probablement deux types de réseaux, certains réseaux économiques et certains réseaux plus diplomatiques et de soutien, on va dire, à des chefs d'État non élus démocratiquement. Par exemple, il avait pris ses distances avec Bongo, on le sait. Mais il avait dit aussi « La politique de normalisation engagée par François Hollande doit aller à son terme ». Ça veut dire qu'il va avoir, à mon sens, une diplomatie surtout économique à côté de la lutte contre le terrorisme, l'engagement militaire, du rôle de stabilité que joue la France et que la France souhaite assumer. Il y a une chose qui est importante à souligner, c'est le fait que Le Drian soit ministre des Affaires étrangères. Donc ça indique qu'il y a une forte continuité, une certaine continuité, notamment en termes de défense, de politique militaire et de positionnement de la France sur l'espace stratégique. Je pense que une des préoccupations d'Emmanuel Macron, c'est que les entreprises des deux continents se parlent, enfin françaises et africaines se parlent, et ça va être vraiment primordial. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à défendre et à soutenir les grands groupes français et leurs intérêts. Donc là, je ne vois pas de rupture fondamentale. Mais voilà, je pense que la politique de développement, la francophonie, va demeurer un point important de diplomatie, et en particulier de diplomatie économique.
Mathieu Collet, directeur de l'agence de communication Euro Agency. Et puis Emmanuel Macron préside donc ce matin son premier conseil des ministres, l'occasion pour le nouveau président de fixer le cap de son quinquennat face à un gouvernement qu'il veut collégial, collectif et à l'image de la recomposition politique lancée pour les législatives françaises de juin prochain, explique-t-on à l'Élysée. Ici aux États-Unis, le ministère de la Justice a nommé mercredi un procureur spécial pour garantir l'indépendance de l'enquête sur une éventuelle collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie. Robert Mueller, très respecté directeur du FBI de 2001 à 2013, sous George W. Bush, puis Barack Obama, sera désormais en charge de cette enquête. La nomination vise à isoler les investigations du pouvoir politique en réduisant au minimum la supervision du ministère de la Justice qui exerce la tutelle du FBI et donc sur les agents qui enquêtent depuis l'été dernier dans cette affaire mêlant politique et espionnage. Et puis, un nouveau séisme a secoué mercredi la politique brésilienne visant directement le président conservateur Michel Temer, enregistré en train de donner son accord à des pots de vin, selon le journal O Globo. Le chef d'État a nié les faits dans un communiqué, mais la nouvelle a fait l'effet d'une bombe avec des appels à la démission de la part de plusieurs partis d'opposition. Plusieurs dizaines de Brésiliens sont descendus dans les rues pour protester dans les plus grandes villes du pays, y compris devant le palais présidentiel à Brasilia, avec des cris de « Timer dehors » à grand renfort de klaxons. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous et merci pour votre fidélité. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.